archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. On rencontre des Afghans dans les rues de Nantes. La ville est accueillante et les Afghans ont de sérieuses raisons de vouloir quitter leur pays. Les vagues se succèdent au rythme des événements dramatiques que connaît l'Afghanistan depuis au moins un demi-siècle. L'occupation soviétique entre 1979 et 1989, les talibans au pouvoir jusqu'en 2001, l'intervention américaine à la poursuite de Ben Laden, puis leur retrait 20 ans plus tard dans les conditions que vous avez suivies dans vos journaux. Un destin agité, on le voit, pour l'Afghanistan qui est aujourd'hui de nouveau aux mains des talibans et de nouveau sous un régime très contraignant qui vise particulièrement les femmes. Le reportage que nous allons entendre date de septembre 2001, mais certains témoignages pourraient facilement être d'actualité aujourd'hui. On l'écoute, on se retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bonjour, aujourd'hui, premier volet d'une série de deux émissions consacrées à l'Afghanistan. Ce pays carrefour de l'Asie centrale, situé entre l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, la Chine et le Pakistan, a connu plus de 20 ans de conflits armés. Après s'être libéré d'une terrible guerre avec les Soviétiques, le pays est resté divisé en plusieurs fractions qui continuent à se combattre sous le regard passif ou complice d'une communauté internationale partagée. La plus grande partie du territoire est aujourd'hui sous le contrôle des talibans, des fondamentalistes religieux de confession musulmane qui imposent un diktat d'une extrême sévérité à une population durement éprouvée qui doit de plus faire face à une sécheresse et à de multiples problèmes pour survivre. L'Afghanistan, qui manque de tout, n'est évidemment pas autosuffisant sur le plan alimentaire. Une grande partie de sa population est déplacée ou réfugiée dans les pays voisins et le pays dépend d'une aide internationale encore insuffisante qui est l'objet de toutes les pressions politiques. Pour entrer dans la première partie de ce dossier, consacré à la situation de crise que connaît la population afghane et qui sera suivie la semaine prochaine d'un deuxième volet sur l'aide internationale, écoutons tout d'abord ce premier bilan que nous dresse Khaled Mansour, le porte-parole du programme d'alimentation mondiale pour l'Asie centrale, le PAM, que nous avons joint à Islamabad, la capitale du Pakistan.
La situation actuelle en Afghanistan est très sombre et ne nous attendons pas à un bon hiver parce que ce que la population aura eu comme récolte au cours des trois derniers mois aura été consommé avant l'hiver. L'Afghanistan ne produit que 50% de ses besoins alimentaires et les récoltes cette année qui ont eu lieu il y a deux mois, étaient inférieures à 2 millions de tonnes, alors que le pays a besoin de 4 millions de tonnes de nourriture et de céréales par an. Le PAM pense qu'environ 5 millions d'Afghans, c'est-à-dire un quart de la population, aura besoin d'aide alimentaire pour passer l'hiver, ce qui représente 400 000 tonnes jusqu'à la prochaine récolte. Le problème en Afghanistan est très complexe. C'est un pays qui a connu plus de 20 ans de guerre et qui traverse une période de sécheresse depuis 3 ans. À cause de la guerre et de la situation économique, des forêts entières ont été coupées, détruites et le bois a été vendu au Pakistan ou à l'Iran. Toute l'infrastructure, les systèmes d'irrigation sont en lambeaux. Les sols sont dégradés car non entretenus à cause de manque de machines et de semences. Donc il y a de très gros problèmes d'environnement. Si la sécheresse s'arrête demain, ou si la guerre s'arrête demain, l'Afghanistan mettra de toute façon des années pour se remettre de tous ces problèmes environnementaux.
Pour tenter de comprendre comment ce pays a pu se retrouver dans une telle situation, je vous propose d'écouter Thomas Gonnet, le responsable géographique d'Action contre la faim en charge de l'Afghanistan.
Et lorsqu'on arrive à Kaboul, effectivement, on découvre un paysage de montagne relativement désertique, alors plutôt jaune en hiver, plutôt avec des teintes bleues l'été grâce à ce ciel ensoleillé. Et on trouve une population qui est assez attachante parce qu'en fait, c'est des gens qui sont vraiment plein de richesses d'un point de vue culturel, d'un point de vue social et d'un point de vue ethnique. Il y a des spécificités dans la musique, dans le vestimentaire. Et c'est vrai que c'est un peuple très attachant. Et ça, c'est la façon dont j'ai découvert Kaboul en 1995, quand je suis arrivé pour travailler. Malheureusement, effectivement, le paysage a bien changé depuis. Il avait déjà beaucoup changé depuis l'occupation soviétique. Mais c'est au fond un peuple qui est très, très, très enrichissant, avec une multitude, une pléiade de représentations ethniques très différentes et une richesse culturelle fascinante. Alors, on estime qu'il y a environ à peu près 20 millions de personnes en Afghanistan. Le principal groupe représenté est le groupe Pachtou, qui vit plutôt dans le sud du pays. Donc, une population qui représente à peu près 40% de la population totale afghane. Ensuite, viennent des groupes tadjiks, plutôt localisés dans le nord-est. Et puis, Hazara, dans le centre du pays. Les Hazara étant très, très différents des autres groupes ethniques, puisqu'ils sont d'origine d'Asie centrale. Et surtout religieusement, plutôt attachés au chiisme. Et puis on retrouve d'autres groupes ethniques dans le nord du pays, des petites populations de 10-20%, d'Ouzbeks, de Turkmènes, quelques groupes arabes, et puis des groupes également de Baloutches dans la frontière avec le Pakistan et l'Iran, donc plutôt des populations nomades cette fois-ci. Donc grosso modo, 5 ou 6 groupes ethniques qui ont effectivement des modes de vie très différents, selon qu'ils vivent dans des zones plutôt désertiques ou plutôt montagneuses. Et à l'origine, effectivement, des groupes qui étaient soit plutôt attachés à l'élevage, soit plutôt à l'agriculture, soit de montagne, soit de plaine. Et puis, évidemment, une dimension culturelle, comme on l'évoquait plus tôt, et notamment attachée à leurs origines, à travers le nom que portent ces groupes ethniques, on l'identifie bien, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, des groupes qui ont effectivement une entité très forte. Mais malgré tout, on a retrouvé en Afghanistan, c'est quelque chose d'assez fascinant, une identité afghane, qui s'est manifesté notamment de façon très forte lors de l'occupation soviétique. Et cette volonté du peuple afghan de s'identifier à travers une culture, même si elle était dominée par les Pachtous, même s'il y avait des règles de société, de fonctionnement politique qui étaient peut-être dominées par un groupe plutôt qu'un autre, il y avait comme cette volonté de s'identifier comme afghan avant même d'appartenir à un groupe ethnique particulier.
Arrivé à cette union finalement presque nationale contre l'occupation. Comment on est arrivé à la situation présente ?
Les premières tensions remontent probablement aux années qui ont précédé l'occupation soviétique avec une révolte qui s'était matérialisée à travers un parti communiste assez fort et un parti islamiste. L'invasion soviétique a provoqué la chute du régime de la République qui était en place. Et en fait, cette opposition s'est cristallisée pendant l'occupation soviétique, notamment bien sûr avec les groupes Mujahideen. Et par ailleurs, elle s'est ensuite en fait régionalisée et identifiée à travers des responsables politiques locaux, religieux locaux, qui ont cristallisé autour de leur personnalité cette lutte contre l'occupation soviétique. Alors, cette résistance contre l'occupation soviétique s'est ensuite concrétisée dans une guerre civile à travers laquelle on a vu malheureusement ces groupes s'affronter alors qu'ils étaient en 92 censés se retrouver autour d'un parti politique ou d'un système politique partagé et démocratique. Et en fait, loin de là, ils se sont finalement étripés les uns les autres pour arriver à prendre le pouvoir à Kaboul et influencer sur le reste d'Afghanistan la politique et l'évolution culturelle et sociale du pays. Alors aujourd'hui, la situation par rapport à cette guerre civile, elle est assez simple. Finalement, 90% pratiquement du territoire est occupé par les talibans, qui sont essentiellement des Pachtous, qui viennent du sud, donc. Et on retrouve une opposition qui s'organise autour du commandant Massoud, qui, lui, contrôle sa zone d'origine, sa terre natale, qui est celle du Panjshir et de la région du Badakhshan. Et autour de Massoud, donc, on retrouve quelques leaders qui sont soit... Tadjik comme lui, soit Ouzbek comme Dostum, contrôle une partie du nord du pays, et Ismail Khan qui contrôle une partie de l'ouest du pays. Donc autour de Massoud, notamment depuis quelques mois, on retrouve une réorganisation militaire qui cherche effectivement à contrer l'opposition, enfin l'évolution du pouvoir taliban et présenter une alternative politique à cette mainmise des talibans sur le système, sur le pays de l'Afghanistan. Alors, ce qui caractériserait les talibans, eh bien, évidemment, c'est, on aurait tendance à dire, dans un premier temps, l'obscurantisme et leur interprétation totalement extrémiste de l'islam, avec une pratique et un culte qui ne laisse place à aucune alternative, à aucune tolérance. Ça se traduit au quotidien par un renforcement des règles qui, déjà à l'origine, à travers le système Pashtou, existaient, mais qui deviennent, avec le système taliban, une obligation, le port du tchadri, la fréquentation des mosquées, et puis, bien sûr, toutes les sanctions qui peuvent être prises dans le cadre de vols, d'adultère, et qui sont effectivement des sanctions très strictes et très dures à l'égard des populations.
Témoignage de femmes afghanes recueillies par Véronique Guéma et Toufik Benaïchouch.
Dans la culture des talibans, dans leur village, les femmes n'ont pas droit d'aller chez le médecin, se soigner, tout ça, ça n'a pas de sens. C'est au contraire de la religion. Une femme était malade chez eux. C'était une vieille femme. C'était et très, très malade. Mais son fils, les hommes de famille ne voulaient pas qu'il sorte de la maison. Il dit non, Dieu, si elle meurt, c'est Dieu qui a voulu comme ça, donc il n'a pas le droit de sortir. Dieu fait comme il veut. Donc il ne faut pas chercher de la contrer ou de faire autre chose.
Ils frappent les femmes dans les rues, même celles recouvertes de leurs voiles islamiques. Pourquoi ? Une femme n'a-t-elle pas le droit de vivre en islam ? Pourquoi ? La moitié des femmes de Kaboul sont des veuves. Si elles ne peuvent travailler, comment feront-elles pour se nourrir et nourrir leurs enfants ? Et pourquoi n'avons-nous pas le droit de sortir de nos maisons ? Pourquoi ? Ne sommes-nous pas des êtres humains ? Pourquoi nous battent-ils ? Ce n'est pas la vie. Si c'est la vie, nous ne l'acceptons pas.
Témoignage de Pierre Salignon, responsable des programmes de Médecins sans frontières.
Le régime taliban est un régime totalitaire, un régime qui, notamment à Kaboul, parce que Kaboul est considéré comme la Babylone dépravée et dans laquelle il faut tout changer, c'est des ombres, c'est des gens qu'on ne voit pas, c'est la moitié de la population en Afghanistan auxquelles on a peu ou pas accès. Alors c'est vrai que dans le domaine de la santé, nous on essaye de maintenir un espace, entre guillemets, d'accès, de liberté dans les structures médicales dans lesquelles on travaille. Et on travaille avec du personnel médical masculin, féminin, que ce soit des expatriés ou des Afghans. Quoi qu'il en soit, ce qu'on constate, c'est la difficulté au quotidien de sortir de chez soi, d'aller se faire soigner, avec toutes les règles qui ont été édictées qui font qu'une femme doit être accompagnée par un membre de sa famille. On voit régulièrement dans la rue, hein, on a vu des jeunes talibans frapper les femmes ou les hommes parce qu'ils ne respectaient pas ou ils étaient censés ne pas se trouver à cet endroit-là. Donc il y a un climat de terreur, on va dire, spécifique à Kaboul, hein, quand même, et peut-être aux zones urbaines, qui existe et qui a des conséquences dramatiques dans le sens où la population féminine, elle arrive très tardivement à l'hôpital. Donc tardivement, ça veut dire que bien souvent, on est dans l'impossibilité de pouvoir leur porter secours parce que la maladie est grave et que souvent, le délai qu'aurait permis peut-être de soigner la personne est passé. Si on va après vers l'extérieur, dans les zones plus rurales, bon, il y a toujours eu ce problème d'accessibilité qui est plus lié à un mode de vie traditionnel, moyenâgeux dans un sens, villageois, où, on va dire, avant d'aller à l'hôpital, on va penser à nourrir les enfants, à s'occuper de la maison, du bétail quand il y en a, etc. Quoi qu'il en soit, les talibans ont fait tomber sur l'Afghanistan une chape de plomb qui fait qu'aujourd'hui, les femmes, elles n'ont plus tellement le droit de vivre normalement.
Pour les populations des villes ou des campagnes, le problème, c'est la survie. Thomas Gonnet.
Alors pour la population afghane, l'un des problèmes principaux, évidemment, est la survie, la capacité à produire et à s'organiser d'un point de vue économique et social. Les conséquences de ces 22 années de conflit sont bien sûr une rupture du système politique qui était en place jusque-là, et puis sur le plan économique, une rupture des mécanismes qui existaient jusque-là, avec par ailleurs des affrontements, encore une fois, sur la base ethnique ou religieuse, et une rupture de système qui existait auparavant. Alors très concrètement, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une décapitalisation, c'est-à-dire que les gens qui, à défaut de pouvoir produire et vendre, sont obligés de consommer ou de se débarrasser de leurs ressources naturelles, que ce soit le bétail, que ce soit les terres qu'ils sont obligés de vendre. Et on constate effectivement, par exemple, dans les régions montagneuses, une concentration des terres entre les mains de quelques propriétaires terriens, avec un système féodal qui existait déjà auparavant, mais qui se renforce, et de plus en plus de gens qui sont amenés à travailler comme des métayers, ou alors, à quitter leur région d'origine, avec leur famille, avec les quelques biens qu'ils peuvent emmener avec eux, et finalement se retrouver complètement déracinés dans des camps de réfugiés, comme on le constate depuis quelques mois notamment, au Pakistan, en Iran, ou Herat, pour ce qui est de la frontière, de l'intérieur du territoire afghan.
Témoignage de Julien Boussac, le chargé de programme de Médecins du Monde.
La population déplacée dans la région d'Herat, on se retrouve, pour prendre l'exemple du principal camp qui se trouve à une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Herat, qui s'appelle Maslar, qui regroupe aujourd'hui une population qui est estimée, parce que les chiffres ne sont pas complètement fiables, aux environs de 200 000 personnes. 200 000 personnes sur un camp qui n'existait pas encore au mois de novembre de l'année dernière. Donc il faut imaginer un espace de 3-4 km de long sur 1,5 km de large, avec principalement des abris sous tente, quelques abris en terre crue qui ont été construits mais qui représentent la minorité, sur une steppe à peu près désertique et sans aucune ressource localement. Eh bien, une population de 200 000 personnes qui se fixe en l'espace de quelques mois, ça suppose des besoins immenses à satisfaire dans tous les domaines, que ce soit la nourriture au quotidien, que ce soit l'accès à des services de santé minimaux pour toute cette population qui en plus souffre souvent de déshydratation, de conditions climatiques qui sont extrêmes aussi bien l'hiver que l'été. Au mois de février, les températures sont tombées à moins 20. L'été, la température peut monter à 45 sans difficulté. Et tout ça dans une situation de dénuement complète, avec un accès, un nombre de puits insuffisant, un nombre de latrines, de lieux d'hygiène qui sont quasi inexistants, en tout cas avec énormément de besoins qui ne sont pas remplis par les quelques acteurs internationaux ou afghans d'ailleurs qui sont présents sur le terrain. Et aujourd'hui, la population continue à affluer vers ce camp, donc sa population continue à augmenter, ce qui veut dire que malgré tout le travail que les ONG et les agences des Nations Unies essaient de faire, on est toujours en retard par rapport aux besoins réels de cette population, et qui arrive vraiment dans une situation de dénuement complet. Aujourd'hui, l'image qui me semble représentative de nos difficultés et surtout de la difficulté de survie de la population, c'est celle de l'extérieur des centres de santé qu'on a montés dans ce camp de Maslar à côté d'Herat. On a parfaitement conscience que ces centres de santé ne suffisent pas du tout à couvrir les besoins minimaux pour l'ensemble de la population et donc exigent un tri à l'extérieur de l'enceinte du centre de santé pour classer autant que possible en termes de priorité avec des cartons de couleurs différentes que l'infirmière et quelquefois un médecin à l'extérieur du centre doit en urgence distribuer à une population qui se presse littéralement autour de l'enceinte du centre de santé. Et on sait le soir qu'il y a peut-être une majorité de la population qui est venue jusque-là pour consulter un médecin, qui va repartir bredouille, faute de moyens, faute de nombre de centres de santé, et que cette population qui aura passé plusieurs heures à cet endroit-là, eh bien, sera soumise au même régime le lendemain, et parce qu'il y a eu d'autres patients dont le cas faisait qu'ils étaient prioritaires, mais qui symbolisent, à mon avis, aujourd'hui l'extrême difficulté et notre insuffisance dans ce qu'on aimerait faire, malgré les efforts déployés qui sont déjà grands.
Le PAM, qui se charge de la distribution de l'aide internationale, doit faire face à d'autres problèmes logistiques.
We have more than 200 people working inside and outside Afghanistan only on our program.
Nous avons environ 200 personnes qui travaillent pour l'Afghanistan uniquement pour les programmes que nous y développons. Nous fournissons plus de 20 000 tonnes de vivres par mois. Nous essayons de contrôler que tous ces vivres arrivent directement aux populations qui en ont besoin. Nous ne fournissons pas d'aide alimentaire aux talibans, ni à l'opposition, et certainement pas aux soldats et aux combattants. Maintenant, travailler en Afghanistan est très difficile. Quand on résout un problème, on est confronté à un nouveau problème. Donc ce n'est pas facile et très contraignant. Notre principale difficulté est d'atteindre les femmes en Afghanistan. nous essayons de faire parvenir au moins 50% de l'aide alimentaire du PAM aux femmes. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement difficile, mais jusqu'à maintenant, on y est arrivé.
Comment voyez-vous l'évolution de la situation ?
I'm afraid I cannot be optimistic. The war doesn't seem to be ending anytime soon. The drought was on.
Je crains de ne pas être optimiste. La guerre ne semble pas devoir s'arrêter. La sécheresse continue pour la troisième année consécutive et les gens sont à bout. Ils ont pu s'en sortir l'an dernier parce qu'ils avaient quelques réserves. Mais maintenant, c'est bien pire. Certaines familles ont vendu leurs filles de 9 ans. Certains ont fait travailler leurs enfants dans des conditions terribles, en pleine chaleur. Certains en sont venus à manger de l'herbe, nourriture de fourrage pour les animaux ou des racines, ce qui était très dégradant pour les Afghans. Donc je vois un hiver très sombre pour cette année.
Pour conclure cette première émission sur la crise afghane, retrouvons Pierre Salignon de Médecins sans frontières.
Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on retrouve tous les éléments qui mènent à la catastrophe la plus grave, les éléments politiques et de combat dont on parle le plus souvent, la situation de catastrophe naturelle avec la sécheresse qui pousse une partie énorme de la population au déplacement. On parlait du Nord-Ouest, mais il y a également eu énormément de déplacements vers le Pakistan et des tensions très fortes avec le Pakistan qui n'accepte plus que des Afghans viennent à nouveau aujourd'hui s'installer au Pakistan. Plus une crise politique qui s'est manifestée par les sanctions aggravées des Nations Unies en décembre de l'année dernière et à des prises d'opposition qui virent de part et d'autre sur un côté toujours plus intransigeant. On a aujourd'hui tous les ingrédients qui font de la crise en Afghanistan une crise, même comparée à l'histoire de ces 20 dernières années en Afghanistan, une crise extrêmement grave. Et à côté de ça, il y a un certain déficit de prise de conscience de la communauté internationale, aussi bien au niveau des opinions qu'au niveau des institutions internationales, des États et peut-être pas des Nations Unies, qui peinent toujours autant à récolter les fonds qu'ils réclament pour ces plans annuels, et c'est le cas cette année encore pour l'Afghanistan. Et c'est ensuite du seul ressort des États de remplir ou pas l'appel à l'aide internationale qui est fixé par les Nations Unies. Et aujourd'hui encore, même sur des situations d'urgence, on ne parle pas de développement, on a certaines difficultés à pouvoir avoir accès à des fonds qui permettent de rendre les services, je dis bien minimaux, pour assurer quelquefois la survie des populations en situation d'extrême précarité.
Ainsi se termine ce premier volet de Fréquence Terre consacré à l'Afghanistan sur un mixage d'Assia Khalid, une réalisation de Fadi Matar, sur une proposition d'Arnaud Jouve. À la semaine prochaine.
Voilà, reportage produit en septembre 2001, donc avant les attentats contre les tours jumelles de New York et la prise de contrôle de l'Afghanistan par les États-Unis qui a suivi. Depuis, on le sait, les Américains se sont retirés d'Afghanistan en 2021 et les talibans ont repris leur pouvoir. Ils mènent aujourd'hui une politique très semblable à celle qui est décrite dans le reportage que nous venons d'entendre. Ceux qui pensent que l'histoire peut avoir tendance à bégayer trouveront ici la preuve qu'ils ont peut-être raison. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à celles et ceux qui nous écoutent sur Internet. On est content d'avoir vos avis et vos commentaires. L'adresse de notre site alternantefm.fr. Allez, une chanson pour finir, puisque cette intervention américaine en Afghanistan a été un moment de libération avant de se transformer en abandon 20 ans plus tard. On va retrouver la chanson qui s'attache à exprimer cette période de l'histoire. Ça s'appelle Manhattan, Kaboul. C'est en compagnie d'Axel Red, mais d'abord c'est Renaud qui chante.
Petit portoricain,
à la semaine prochaine.
Bien intégré quasiment new-yorkais, dans mon bulletin tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela n'était jamais ni le Coran.
Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Chair à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.